Oui.
FM 93, ça me parle.
Ça me parle de ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans ma ville.
93.
Ça me parle avec Sylvain Bouchard, Doc Mailloux, José Arsenault, Myriam Segal, Luc Lavoie, Éric Duhem, Dan Pou, Paul-Raphaël Charon, Marc Boilard.
93.
C'est mes enjeux, mes intérêts, ma vie. Ça vient me chercher, ça m'interpelle. Ça me parle.
FM 93, ça me parle.
Le midi. Ici Myriam Segal. Le phare de 60 étages à Sainte-Foy. Des chiffres, du jargon et une convocation in extremis ce matin. Troisième lien, une étude de la ville qui dit que c'est impossible avant 2032. Minimum! Et adoption, 8 fonctionnaires pour 19 000 dossiers.
FM 93, ça me parle. Développe les dossiers, les enjeux sociaux, la vie en général. FM 93. Vous écoutez Segal Lavoie, le midi.
11h01, bonjour Luc Lavoie.
Salut Myriam.
Belle fin de semaine?
Oui, plutôt belle fin de semaine avec un magnifique match de hockey dont on va reparler tantôt. Mais...
Moi, j'ai fait des balades dans le bois, dans des endroits où je risquais pas de me faire tirer par les chasseurs.
J'ai entendu des coups de carabine.
Non, mais les oies, les voiliers d'oies qui me passaient au-dessus de la tête.
C'est impressionnant, c'est...
Ah, regarde, c'est beau et en même temps, tu te dis, ils sont donc bien intelligents, eux autres, ils s'en vont.
Ils sacent leur camp dans le sud.
Moi, je suis l'animal à deux pattes qui est censé être plus intelligent qu'eux autres, puis ces cervelles d'oiseaux-là, ils ont le génie de partir.
Mais t'as pas d'ailes, par exemple.
Non, mais ils ont le génie de partir.
Des ailes,
pareil.
Ça te coûte une couple de 1000 piastres.
Ça va être une grosse semaine sur le plan politique, Luc. Il va y avoir les assermentations des députés, là, les quatre partis représentés à l'Assemblée nationale. Est-ce que ces cérémonies d'assermentation sont bien importantes? Il se passe rien, là.
Non, il se passe strictement rien. Là, c'est important pour les familles.
Okay.
C'est important pour les familles, puis les adjoints, puis les proches des élus. Pour eux, c'est la photo qui reste pour toujours. C'est le jour où ils sont devenus députés de l'Assemblée nationale, ce qui, à juste titre, est considéré comme un honneur. Mais non, il se passe strictement rien d'autre que cela.
Il n'y a rien à observer pour nous autres lors des assermentations. Par contre, le Conseil des ministres qui sera annoncé le 18, c'est-à-dire jeudi, ça... C'est un moment clé.
Ça, c'est un moment clé du gouvernement. Ça, c'est... On va voir un certain nombre de choix stratégiques. On va voir l'alignement du gouvernement. On va voir à quelle place il met ses gros canons. Il y en a qui sont évidents plus que d'autres. Mais il reste quand même que je suis à peu près persuadé qu'au moment où l'on se parle, c'est pas terminé le travail. Non? D'après moi, ils sont encore en train de supputer. Et en plus, il y a des vérifications de sécurité qui se font. Hein?
Oui, oui.
C'est la Sûreté du Québec qui a pour mandat d'aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui traîne dans le décor. Alors, avant d'offrir le poste à quelqu'un...
De vilaine langue disent que, notamment, la Sûreté du Québec s'assure d'avoir quelque chose pour faire chanter ses ministres.
Oh, non, c'est vraiment de la mauvaise langue, ça. Là. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit. La Sûreté du Québec, c'est un corps policier professionnel. Et dans ce cas-là, de toute façon, il n'y a rien de tel. Là, en fait, leur travail, c'est de dire au premier ministre s'il y a quelque chose qui traîne dans le décor, l'en informer, c'est à lui de décider.
Avant de faire la nomination.
Voilà.
Moi, il y a quelque chose qui me frustre toujours dans les assermentations de Conseil des ministres. C'est qu'ils promettent, la première chose qu'ils te promettent, c'est de pas te dire ce qui est important. T'sais, je promets de ne rien vous révéler de ce que j'aurais appris dans les devoirs, dans le cadre de mes fonctions. T'es mon employé, la première chose que tu fais, c'est me promettre de pas me dire ce qui est important.
Ouais.
Ça me frustre toujours un peu.
Arrête un peu, là, Myriam, arrête un peu. Là. Imagine si le Conseil des ministres était public, non? Y a-tu bien des décisions qui se prendraient, d'après toi? Est-ce que les vraies discussions, celui qui a envie de dire, hey, si tu commences à me taper sur les nerfs avec Nathan, tu ne l'entendrais plus, ces affaires-là? Voyons non, donc, faut être sérieux. Là.
Non, je comprends, là, mais je trouve ça... Je trouve ça bizarre que ce soit dans le serment d'office, c'est la première chose qu'on dise aux citoyens.
C'est très important. Les affaires de l'État, c'est très important. Il y a des choses qui se retrouvent au Conseil des ministres qui ne doivent pas être connues pour des raisons de sécurité, parfois.
D'accord.
Et pour des raisons de sécurité économique aussi.
Mais il y a aussi des discussions auxquelles on échappe de cette façon-là parce que l'argument, c'est vous devez suivre la ligne de parti et les discussions doivent se faire dans les caucus et au Conseil des ministres. Or, ces deux endroits-là sont fermés.
Oui, mais tu parles de deux choses, le caucus puis le Conseil des ministres.
Ouais.
Commençons par le Conseil des ministres. Le concept même à la base du parlementarisme britannique, c'est qu'un Conseil des ministres doit être solidaire. Ceci ne veut pas dire que tu es obligé de prendre la même position que tes collègues, mais une fois la décision prise, tu dois la défendre sur la place publique comme si c'était ta propre décision. Et tu as un choix. Si tu n'es pas d'accord avec la décision, tu démissionnes.
Tu peux t'en aller.
Tu t'en vas. Tu t'en vas, puis t'expliques pourquoi tu t'en vas. Mais là où c'est intolérable pour un gouvernement, parce que ça crée uniquement de l'instabilité puis une incapacité à gouverner, c'est quand tu peux te promener sur la place publique, chialer contre la décision, tout en demeurant membre du Conseil des ministres, ça, ça marchera pas.
Faire un Maxime Bernier de toi-même.
Mais c'est vrai, là, c'est très, très fondamental. Je me souviens, moi, j'ai eu ce privilège d'assister pendant un certain nombre d'années, pas à toutes les réunions, mais à certaines réunions du Conseil des ministres et des comités clés du Conseil des ministres. Ouais. J'étais là, par exemple, quand la décision a été prise d'envoyer les chasseurs canadiens à la guerre lors de la première guerre du Golfe en 1991. C'était une décision capitale parce que c'était la première fois que le Canada s'engageait dans une guerre depuis la guerre de Corée. Et de donner l'autorisation à nos combattants d'ouvrir le feu et de combattre avec la coalition, c'était une très grave décision. Et il y a eu des discussions. Et il y a eu des discussions que je ne révélerai pas, qui deviendront publiques après 30 ans. Je pense que c'est 30 ans, la loi fédérale. Ouais. Je dis pas que je dis rien parce que moi-même, je suis tenu par un serment. C'est important, ces affaires-là. Ça implique, entre autres, ce que les alliés nous disent. Les alliés n'ont pas envie qu'on révèle des secrets qui leur appartiennent.
Moi, sur le plan de la sécurité, je te suis totalement.
C'est vrai.
Sur le plan de la discussion publique, je trouve que le système appauvrit la discussion publique.
Je ne pense pas du tout.
Ben, regarde, les députés libéraux qui étaient contre le registre des armes à feu, ils n'ont jamais pu parler publiquement. Ils parlent dans le caucus, puis une fois que le caucus a décidé, ben ferme ta gueule, puis va aux toilettes au moment de voter.
Ce que tu dis là n'est pas vrai
passant. C'est en plein ça.
Ben non, les députés, ils parlent sur la place publique.
Voyons, Norbert Morin.
Absolument qu'ils parlent sur la place publique, à leurs risques et périls, en ce sens qu'ils ne se feront pas mettre dehors du caucus. Pour se faire mettre dehors du caucus, faut voter contre la majorité, contre son gouvernement, ouvertement. T'as le droit, c'est la même chose.
Ils vont aux toilettes à la place. Fait que là, on doit tenir un registre des députés qui vont aux toilettes.
On doit tenir un registre très sérieux, de qui était là au moment du vote, et si une absence était justifiée. Elle se justifie, disons que t'es hospitalisé. Elle se justifie, disons qu'il y a un mort dans la famille. Et c'est ça, la réalité de gouverner. Gouverner, ça implique qu'on débat, puis à un moment donné, une décision est prise. Puis quand elle est prise, ben tu vis avec, puis t'as le choix. Tu peux démissionner.
Qui tu vois comme ministre de l'Éducation, toi, dans la CAQ?
Je le sais pas, parce que je les connais pas tous très bien, mais il semble y avoir un consensus chez les spéculateurs, ce qui veut pas dire grand-chose d'autre que cela. C'est un consensus de spéculateurs. Il y a un consensus qui veut que ce serait Jean-François Roberge. Bon.
C'est lui qui était le critique en matière d'éducation.
Oui.
C'est quelqu'un qui a déjà été un enseignant, mais...
Et on parle aussi d'un certain Simard, Jean-François Simard de la région de l'Outaouais.
OK.
Qui a été autrefois un péquiste, je crois.
Oui, c'est ça, c'est pas l'ancien...
Un ancien ministre délégué à l'environnement ou un truc comme ça dans le gouvernement.
Un des rares qui a de l'expérience à la CAQ, en fait.
Pardon?
C'est un des rares qui a de l'expérience.
Qui a un tout petit peu d'expérience, effectivement.
À la CAQ, là, comme ministre.
Oui.
Moi, je souhaite quand même qu'à la famille, on puisse mettre soit Mme Laforêt, qui a été élue dans Chicoutimi, soit Geneviève Guilbeault. Parce que je sais pas si tu te rappelles, la loi 143 qui a été passée par les libéraux à la toute fin, nuit énormément aux garderies privées.
Oui.
Que Manon Massé appelle les garderies commerciales. Ces garderies privées scandaleuses étant le fait de femmes qui ont décidé de rester à la maison pour s'occuper de leurs propres enfants.
Non, toi et moi, on est tout à fait du même avis là-dessus.
Et la CAQ a promis de réviser certaines règles qui ont été imposées et qui, à toute fin pratique, les étouffent. Par exemple, la tenancière d'une garderie privée ne pourrait plus se faire remplacer. Fini. Fait que t'as un rendez-vous à l'hôpital, tu dois fermer ta garderie une journée. Là, les parents vont se tanner, là.
Mais c'est vrai que ça a été fait pour nuire aux garderies privées, puis pour une fois encore, encourager le monopole de l'État puis des syndicats.
Et dans le cas de la Madame Laforêt qui a été élue dans Chicoutimi, puis il va bien être obligé de nommer quelqu'un dans cette région-là aussi, c'est quelqu'un qui avait des garderies. Mm-hmm. Et qui a parti sa carrière, elle a fini par avoir des garderies subventionnées, là, mais a parti sa carrière au privé, elle. Mm-hmm. Et dans le cas de Geneviève Guilbeault, elle nous l'a dit en onde qu'elle allait faire changer les choses.
Mais dans le cas de Geneviève Guilbeault, je ne sais pas où elle va se retrouver, mais je pense qu'il y a un poste qu'elle va occuper, en plus d'un autre, ça va être vice-première ministre, ça m'apparaît évident, oui. Qui tient d'abord à continuer la tradition créée par Jean Charest de la parité, qui a été reprise par Trudeau par la suite au fédéral. Donc, la parité va faire en sorte que si tu veux avoir un numéro 2, il faudrait que ce soit une femme. Sans ça, ça devient juste un paravent. Et Geneviève Guilbeault, on a vu depuis l'élection de la CAQ le 1er octobre, donc à compter du 2 jusqu'à cette assermentation cette semaine, il y a eu deux porte-paroles qui ont été envoyées au front pour parler au nom de la CAQ, Simon-Jolin Barrette et Geneviève Guilbeault. Alors, on peut s'attendre à ce que ces deux-là occupent un poste très, très important, parce que dès le départ, ils en occupaient un.
La semaine passée, le maire Labeaume a dit qu'il comprenait rien au projet de la CAQ sur le troisième lien, là. Mm-hmm. Il a dit et aujourd'hui, il y a une étude dont on va se reparler qui est sortie, mm-hmm. que la ville avait commandée au mois de février, la conférence règne, tu sais. Mm-hmm. Bon, au sujet du troisième lien. Et, on a essayé d'avoir des commentaires de la CAQ. Et la réponse est de Éric Kerr et de Jonathan Julien et de la CAQ. En fait, c'est babinoneux jusqu'à ce qu'il y ait un ministre des Transports.
Oui, alors, c'est un dossier très explosif pour la région de Québec, pour la députation caquiste de la région de Québec. Et je vais te dire franchement le fond de ma pensée. Comme tu le sais, je ne m'oppose pas au troisième lien, mais je pense qu'il est impossible d'entreprendre les travaux en 3 ou 4 ans. Ça m'apparaît totalement impossible. J'espère que les gens devront comprendre ça, là. La promesse qu'on leur a faite n'est pas réalisable. Même avec la meilleure volonté, même avec une envie de mettre le gaz au tapis puis d'accélérer la mise en œuvre du projet, je suis à peu près convaincu, et j'en ai parlé à des ingénieurs qui sont impliqués dans le pont Champlain à Montréal, ils me disent, écoute, c'est tout simplement pas faisable, c'est pas politique, c'est que c'est compliqué faire ces ouvrages-là, et il n'y a pas un modèle qui a été utilisé à une place qui peut être utilisé à l'autre. Il y a évidemment des principes qui demeurent les mêmes, mais il faut étudier dans les moindres détails. On veut des ouvrages qui vont durer au moins un siècle et qui vont être sécuritaires et qui vont donner les résultats escomptés. Alors, les électeurs se sont fait berner par cette histoire du 3-4 ans.
Ah non, pas du tout.
Parce de 3-4 ans?
Moi, écoute,
ben voyons donc.
Non, ce pourquoi personnellement, j'ai voté, c'est quelqu'un qui veut le faire le plus vite possible. Le 3-4 ans, là, je m'en fiche.
Ah, moi, ben,
j'avais le choix entre Québec solidaire et le PQ qui veulent rien savoir, le Parti libéral qui a mis ça sur le petit bœuf et qui met beaucoup de mauvaise volonté à avancer, et quelqu'un qui me dit qu'il veut le faire le plus vite possible et à bonne place.
Ben, dans ce cas-là, tu as eu la bonne réflexion. Si tu crois qu'il devrait y avoir un troisième lien, tu as choisi le parti qui semble le plus enclin à vouloir le faire.
Et je pense que beaucoup d'électeurs...
Mais le 3-4 ans n'est pas vrai, là. J'espère que tu comprends que le 3-4 ans, c'est pas vrai, là.
Je pense que beaucoup d'électeurs sont comme moi en disant ils seront peut-être pas capables en 3-4 ans, hein, mais au moins ils veulent. Puis au moins ils vont arrêter de niaiser.
Ouais. Ben parce que là, on fait du niaisage. J'ai pas le même envie enthousiaste. Moi, je te dis que j'ai rien contre, que je vais respecter la décision qui sera prise, mais... J'aime pas quand on me raconte des histoires à la con, comme dans 3-4 ans, on va débuter des travaux.
Moi, j'aime pas
une histoire à la con, puis elle mérite d'être traitée comme telle.
Moi, j'aime pas qu'on me raconte des histoires à la con, comme par exemple, on va examiner 5 corridors.
C'était une histoire à la con.
OK.
On est d'accord.
Autre gros sujet qui va retenir l'attention cette semaine, c'est la semaine de la légalisation du pot. Et non, ce ne sera pas l'apocalypse, là. Mais il y a quand même, dans l'application des choses, des affaires qui vont déjà un peu tout croche. D'abord, le crime organisé est mort de rire.
Oui, parce que les prix sont trop élevés.
Les prix annoncés avant la syndicalisation et avant la construction et l'ouverture des succursales sont déjà trop élevés.
C'est ça. Puis le syndicat s'apprête à mettre le pied dedans, là. D'après moi, ça va, avec notre beau système québécois de 50% des cartes signées, alors avec l'infiltration qu'ils ont probablement fait, puis les propos publics, alors là, on sait qu'ils sont payés 14$, puis on sait que dans 3-4 ans, ils vont être rendus à 18, 19, 20, non? Et qui vont avoir fait une coupe de grève entre-temps. Alors, t'as raison, le crime organisé se roule de rire.
Et là, on a l'Institut CDR qui publie une étude qui dit, avec la façon dont ça va fonctionner, si le gouvernement ramasse 300 millions, il va être chanceux.
300 millions de profits?
Oui, de revenus.
De revenus.
De revenus, même pas de profits.
De revenus.
Autrement dit, ça va être des pertes fiscales par rapport à ce qu'ils ont prévu de 800 millions.
Ben, c'est rien, hein? Non. Écoute, dès lors qu'ils ont décidé, ça c'est la décision du Québec, c'est pas le cas en Ontario, de mettre ça entre les mains du secteur public, il n'y a plus aucune des considérations habituelles dans le commerce au détail qui s'applique. Par exemple, pour être concurrentiel, puis dans ce cas-là, on le sait que le concurrent, c'est le marché noir étant le crime organisé, ça tient pas la route là-bas. C'est comme à l'époque où, je te l'avais raconté, je pense à l'émission, j'avais rencontré une dame, tout ce qu'il y a de mieux et tout, mais qui parlait le langage technocratique, là, qui devait donc être soit péquiste, quelque chose du genre, là. Et qui m'avait dit, là, je lui avais dit, écoute, ça a-tu du bon sens qu'ils sont payés à la SAQ 40-45% au-dessus du marché? Ben, elle dit, moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je me réjouis de savoir qu'il y a des citoyens qui sont mieux payés et qu'ainsi, ils se sentent mieux avec leur famille. Ben, c'est la façon de penser du secteur public, à part de ses grèves puis de tout le reste. Mais le commerce, c'est un domaine où vraiment la loi de l'offre et la demande, le commerce au détail, elle s'applique que ça te plaise ou non.
Et là,
le consommateur va aller là où il va avoir le meilleur prix. Puis là, on est parti pour avoir des commerces au détail dirigés par l'État qui vont mener tout droit dans le mur.
Sans compter que la légalisation fait en sorte qu'il y a maintenant beaucoup d'endroits où tu peux produire légalement du pot. Et il n'y a rien qui dit que le crime organisé ne va pas essayer d'infiltrer ces endroits-là, de ramasser du stock, etc.
Ben, c'est-à-dire qu'ils investissent dans les compagnies qui sont cotées en bourse, c'est facile d'investir, par des compagnies à numéro qui transitent par des paradis fiscaux. On le sait, on l'a vu, on n'a pas encore la preuve noir sur blanc, mais on voit très bien qu'ils sont pas fous. Ils disent, écoute, ils m'enlèvent un morceau de mon lunch, moi le crime organisé, parce qu'eux, dans le crime organisé, ils n'ont pas honte d'être dans le crime organisé, c'est comme ça qu'ils sont. Alors ils se disent, ben là, ben, je vais investir. Ils investissent, puis là, ben, parmi les investisseurs, les détenteurs d'actions dans ces entreprises légales de production, ben, ben, le crime organisé.
670-9330 quand vous voulez intervenir dans l'émission, studio@fm93.com par courriel et par texto 25226 tout au long de l'émission. Petite pause et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec les dossiers d'adoption? Le gouvernement a annoncé que les enfants qui veulent savoir qui sont leurs parents auront dorénavant un recours autre que Claire Lamarche et ses retrouvailles.
Voilà.
Bon. Et sauf que ça a l'air, ben, aussitôt que l'État se mêle de quelque chose, ça devient compliqué.
Ça devient très compliqué.